France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, nous accueillons la plasticienne, mais aussi musicienne, Dominique Gonzalez-Forster. À 19h20, affaire en cours, comment une fondation peut-elle accompagner les artistes? Première étape pour Marie Sorbier à Bruxelles avec Nathalie Guillot, curatrice, éditrice et fondatrice de la fondation Tali. 19h50, affaire à suivre comme chaque lundi. Nous partons pour l'étranger, direction ce soir Vienne, avec Isor Ias, correspondante de France Culture en Autriche. Le tout réalisé par Alexandre Fougeron avec Marie-Claire Oumamadi à la prise de son. Bonsoir Dominique Gonzalez-Forster.
Bonsoir Arnaud.
Très heureux de vous accueillir à l'occasion notamment de cette exposition La Chambre humaine et la planète close qu'on peut voir jusqu'au 9 octobre à la galerie Chantal Grosel à Paris. Puis bientôt il y aura un spectacle de Jean-Claude Galota auquel vous allez collaborer avec également Rodolphe Burger. Le spectacle s'appelle Le jour se rêve, il sera créé début novembre, il partira en tournée, il passera notamment par Paris au théâtre du Rond-Point. Je donnerai les dates en fin d'émission, mais au-delà de ces actualités dans cette émission, vous savez qu'on a envie de revenir sur le parcours, les influences, les méthodes de travail des artistes que nous recevons. Alors, si vous êtes né à Strasbourg, vous avez grandi dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble, quartier construit sur les idées de Le Corbusier, où tout était expérimental, aussi bien les immeubles sur pilotis, les couleurs, le grand parc, l'architecture moderniste qui vous a très tôt passionné, enfant, qui vous amènera peut-être aussi ensuite à voyager et visiter de très nombreuses cités, on va dire, étonnantes dans le monde entier. Grenoble, qui est à cette époque une ville laboratoire, qui joue un grand rôle, évidemment, dans la construction de votre sensibilité, de votre imaginaire. J'avance un petit peu pour dire qu'il y aura le lycée Emmanuel Mounier de la Villeneuve, les cours de Pierre Casalegno, et puis ensuite, de 82 à 87, l'école des Beaux-Arts de Grenoble, l'ouverture du magasin, le Centre National d'Art Contemporain de Grenoble. Je vais vite, pour mieux prendre le temps ensuite de vous écouter, mais vous proposez d'écouter quelqu'un d'autre avant. C'est Philippe Parreno qui était mon invité au mois de décembre 2020.
J'ai passé au magasin beaucoup de temps à installer les expositions, à les désinstaller, donc à façon un peu l'accrochage, désaccrochage, c'est-à-dire à peindre les murs, à installer les œuvres et puis après les repeindre derrière. Donc cette idée effectivement que dans un espace post-industriel, qui est un des bâtiments de Eiffel, qui avait été repris et ce centre d'art national d'art contemporain a été créé par Jacques Guillot, qui est un personnage incroyablement charmant et qui a beaucoup fait pour ma génération et qui nous a fait rencontrer comme ça vraiment alors toute la chaîne de production de l'art contemporain qui s'inscrit dans une histoire quand même post-conceptuelle et qui insistait sur le fait effectivement que le Centre d'art contemporain précisément n'était pas un musée, donc il n'y avait pas de collection.
Mais des expositions
il s'agissait là de produire, de produire des expositions temporaires qui se jouaient là et qui se déjouaient ensuite, quoi. Donc c'est très particulier comme histoire en fait.
Vous aussi, Dominique Gonzalez-Forster, vous avez passé beaucoup de temps au magasin.
Oh oui, beaucoup, parce qu'en fait, moi, si Philippe repeignait les murs, moi, je m'occupais de l'accueil des scolaires, en fait. Donc, j'ai accueilli beaucoup de groupes jeunes et moins jeunes qui posent toujours un peu les mêmes questions. Est-ce que c'est de l'art ou pas? Combien de temps on doit rester devant une œuvre? Donc, c'est des...
Pas des questions simples,
non,
par ailleurs.
C'est des bonnes
questions. C'est vertigineux.
C'est des bonnes questions. Et puis après, j'ai fait aussi la première année de l'école du magasin. Donc cette formation qui était à l'époque. Maintenant, il y a des formations pour une pratique curatoriale un peu partout. Mmh. Mais en fait, à l'époque, il y avait que le Whitney à New York et puis Grenoble. Et j'ai fait donc la dernière année des Beaux-Arts, j'ai commencé à cheval cette formation et du coup ouais, j'ai passé beaucoup de temps et je confirme, Jacques était extraordinaire.
Voilà, il faut rendre hommage, effectivement.
D'ailleurs, Victoire Dubruel aussi, d'ailleurs, enfin tout un ensemble d'artistes qui sont venus à ce moment-là. Et puis, évidemment, Jean-Luc Villemout et Ange Leccia, qui, bien qu'étant aux Beaux-Arts, exposés aussi au magasin, étaient très proches aussi. Mais c'est vrai que pour nous, en fait, c'est en allant enseigner après à Bordeaux que j'ai pris conscience... Parce qu'en fait, je pensais que toutes les villes étaient comme Grenoble, un peu naïvement. Et j'ai réalisé qu'en fait, il y avait quelque chose de très particulier à Grenoble. C'est-à-dire un espèce d'assemblage à la fois scientifique, culturel, mais aussi, on va dire, géologique, quoi. Ce cirque de montagne. Et puis, en grandissant, ben, juste à côté de la Maison de la Culture... où grâce à une programmation hallucinante à l'époque, puisque moi, enfant, ben, j'ai vu John Cage frire des champignons sur scène alors que je pensais voir un compositeur. Ben, j'ai vu Lavaudan, Palazzo Mentale de Lavaudan. J'ai vu des choses... et c'est vraiment... c'est autant ma formation que le magasin, que le musée aussi de Pierre Gaudibert, où j'ai été aussi... deux étés gardienne et où j'ai vraiment pris ma première leçon qui était le spectateur passe rarement plus de 3 secondes devant une œuvre. Donc comment le garder, comment l'attraper? Il y avait un truc très particulier, une attention très particulière aux gardiens dans ce musée, c'est qu'on avait droit, comme on était tous étudiants, on avait droit à un bureau en fait. Donc on pouvait continuer à travailler. Enfin, je le dis parce que je crois que c'était...
Là aussi, c'est pas banal non plus. Hein.
C'est pas forcément, on va dire, génial pour la salle, quoi. Mais si c'est bien placé. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'était une bonne initiative. Et le musée de Grenoble, qui ensuite a changé de bâtiment, avait aussi une collection extraordinaire. Donc en fait, c'est vrai qu'à Grenoble, on était... assez bien entouré.
Oui, alors vous avez évoqué Ange Leccia parmi ses professeurs qui étaient aux Beaux-Arts, mais qui vous confie la rédaction d'un texte pour sa participation à la Documenta de Cassel en 87. Qu'est-ce que ça signifie pour vous à ce moment-là? C'est une forme de reconnaissance pour l'étudiante que vous êtes encore.
Ouais, j'ai 21 ou 22 ans. En fait, je me rends compte que ça irrite terriblement tous les critiques d'art et historiens, quoi, qui comprennent pas la confiance que quand je me donne, quoi, en me proposant d'écrire ce texte. Il avait déjà témoigné, de manière hallucinante, puisqu'en fait, j'étais en troisième année aux Beaux-Arts quand il a pris un rendez-vous. Quand il m'a pris rendez-vous avec Suzanne Paget à l'Arc, au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, et donc où je ne sais pas avec quelle inconscience et quelle insouciance j'ai débarqué avec mon dossier de photos. Suzanne, on se voit toujours et c'est un lien très très fort. Mais Ange, je ne sais pas ce qu'il a. Je ne sais toujours pas exactement ce qu'il a vu, pressenti, perçu, mais en tout cas c'est un lien qui tient puisque là on vient de travailler ensemble sur l'hommage à Christophe à la Philharmonie et on prépare aussi un film et c'est vraiment c'est une très longue très longue histoire.
Alors, je lui poserai la question, hein. Je compte bien évidemment recevoir Ange Leccia, un artiste que j'aime infiniment aussi dans cette émission. Je lui demanderai ce qu'il a repéré en vous dès la troisième année des Beaux-Arts. Mais à propos de Documenta, je voudrais proposer alors une archive coup double, si je puis dire. J'ai reçu l'écrivain Enrique Villamatas dans Affaires culturelles au mois de mai dernier. Il a écrit beaucoup de textes formidables, c'est pas à vous que je vais le dire, mais notamment Impression de Cassel, qui est quand même un livre éminemment savoureux, comme il sait le faire, paru en France chez Bourgois. Alors, coup double, parce que quand vous aviez 12 ans, en 1977, Dominique González Foster, vos parents vous emmenaient au Centre Pompidou, qui venait juste d'ouvrir, et vous avez vu l'exposition inaugurale consacrée à Marcel Duchamp. Alors, on va écouter Enrique Villamatas me parler de Marcel Duchamp.
Dans le cas de Marcel Duchamp, ça a été fondamental pour moi. Je l'avais vu jouer aux échecs, à Cadaqués. De loin, avec un de mes amis, Enrique Villacho, qui a été le Christ dans l'Évangile selon Saint Matthieu de Pasolini.
assistais à une partie d'ajedrez.
Et j'assistais à cette partie d'échecs, hein, où mon ami a battu Duchamp. Je ne crois pas que Duchamp il jouait pour gagner, en fait. Hein. Mais il m'a paru un peu triste quand même, et il a juste dit, voilà, je crois que je me fais vieux, hein, parce qu'il avait perdu. Et un peu plus tard, a été publié en Espagne les conversations de Pierre Cavin avec Duchamp, et ça, ça a eu un véritable impact sur moi, hein, pour tout ce que ces conversations ont révélé. Et plus tard, après avoir lu ce livre, lors d'un voyage à Paris, ça m'a beaucoup surpris qu'il y avait une exposition. On n'était pas habitué à ça en Espagne. Il y a eu cette exposition sur les machines solitaires. Quand je les ai vues, ces machines célibataires, j'ai fait un reportage pour le quotidien barcelonais La Vanguardia sur tout ce que j'avais vu, ces machines de Kafka, de Raymond Roussel. C'était tous, en fait, des machines qui n'étaient pas fictives, hein, qui montraient que tout était possible. Et après, ce papier, l'éditeur donc de L'Imposture, pour premier roman publié en Espagne avec un certain éditeur, et il m'a dit donc qu'il avait beaucoup aimé ce papier, et donc il a publié en fait ce papier dans, chez l'éditeur Anagrama, qui était l'éditeur qui était le mien à l'époque.
Alors, on va faire dans coup double. Alors, Marcel Duchamp, d'abord, quel impact, quel souvenir vous avez de cette visite du Centre Pompidou en 77, vous aviez 12 ans. Dominique Gonzalez-Forster.
J'ai été très très impressionnée. En fait, je crois que ça.
C'est une épiphanie?
Oui, parce que c'est un peu comme j'imagine. Faut imaginer que déjà toute petite, bon, je passais mon temps dans les. On avait, je sais pas, des. La revue Grand Peintre ou des trucs comme ça. Et puis, ma mère avait une très grande collection de cartes postales d'œuvres d'artistes. Et en fait, bon, la légende dit, hein, je ne sais pas si c'est vrai, hein. Mais que je reconnaissais Miro, Picasso et compagnie. À 5 ans, je différenciais. C'était vraiment un truc, je passais beaucoup de temps. Et donc, je pense que j'avais déjà assimilé toute une couche, quoi. C'était un peu comme, mais j'aurais envie de rapprocher ça un peu de la, un peu peut-être de la physique ou comme ça. Et j'étais prête à passer à la physique quantique. Et en fait, Duchamp, c'était ça pour moi, quoi. C'est-à-dire, je voyais qu'il y avait encore un niveau complètement différent. C'était extraordinaire.
Vous avez vu, étant donné.
Le grand verre, et puis aussi, en fait, je crois que c'était indissociable de l'expérience du Centre Pompidou. C'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était une continuité. En fait, je pense que dans ma tête, un peu tout le Centre Pompidou était Marcel Duchamp. Et quand j'ai retrouvé pour l'exposition en 2015, où on a fait une espèce de salle qui
votre rétrospective.
Voilà, où on essayait de retrouver un peu ces années-là, quoi. Du coup, j'ai vu des photos de l'expo et ça m'a des choses dont je me souvenais pas. Alors, il y avait des plantes vertes un peu partout. Il y avait mais c'était le display, enfin, était extraordinaire. Et je pense que ouais, sa dimension expérimentale est toujours avec moi. Ouais.
Et puis, celui qui en parlait, Enrique Vidamat, voilà. Ça c'est une vieille rencontre, là aussi.
Enrique,
hein.
C'est vraiment... ouais, je pense que c'est un ami de Duchamp. Il le dit. Hein. Oui. Il y a quand même une sorte de... Et la rencontre avec lui, il est devenu un peu, à un moment donné, ma boussole, en fait. C'est-à-dire qu'il me donnait beaucoup d'indices, sans forcément le savoir. C'est-à-dire que on a eu souvent des conversations en lui parlant espagnol, que je comprends moi parlant français.
Et que lui comprend.
Que lui comprend très bien. Et puis, échangeant comme ça des choses dans des lieux différents, mais toujours, je pense, chacun écoutant l'autre avec beaucoup d'attention, peut-être aussi à cause de la différence des langues. Et du coup, ça a eu, par exemple, pour le Splendid Hotel, donc c'était l'exposition au Palacio de Cristal à Madrid. Il m'a révélé des choses à propos de Rimbaud. Par exemple, le désir qu'avait exprimé Rimbaud dans une lettre à sa mère d'être exposé dans le cadre d'une exposition universelle, donc d'être d'exposer ce qu'il était. À quel point son état post-écriture l'avait transformé. Et des choses comme ça, quoi, qui sont... donc, il est un réservoir incroyable de, je pense, de subtilité artistique. Et peut-être que... Donc, quand il m'a parlé de Marine Bad électrique, donc le livre qui raconte aussi nos échanges, qu'ils soient écrits, télépathiques, ou j'étais un peu inquiète, je dois dire, de ce qu'il allait révéler. Mais en fait, j'adore ce livre parce que je pense que c'est un livre assez... je sens que mon secret ou nos secrets sont bien gardés. J'ai pensé à la phrase de... Qu'est-ce que c'est? Le presbytère du parfum de la dame en noir ou du mystère de la chambre jaune. Là, je sais pas. Il y a une phrase fameuse, en tout cas. Le presbytère garde son secret. Mais qu'en même temps, il y avait donc... je me suis pas du tout sentie... exposée ou révélée ou... Mais par contre, qu'il avait détaillé avec une hallucinante précision nos processus, quoi. Et ça, j'adore le lire parce que quand je le lis, je le sens écrire aussi. Et je suis... déjà, chaque livre est une bibliothèque. Déjà, il a réenchanté Paris pour moi, parce que quand j'ai lu Paris ne finit jamais, en fait, j'ai retrouvé Paris, quoi. Et puis, je crois que son rapport à tous les temps, quoi, que ce soit un temps prédictif qui contient dans l'écriture une énonciation, enfin, je crois que là, c'est aussi très proche de certaines opérations qu'on peut pratiquer, Philippe et moi et d'autres artistes. Donc, je sens une très grande proximité, en fait, dans la pratique, même si, dans un cas, ça aboutit à un très long livre, parce que moi, j'ai l'impression qu'il écrit un seul livre.
Oui.
Comme j'ai l'impression que Philippe et moi, on fait une seule exposition. Voilà.
Comme vous en parlez bien, Enrique Villamatas, qu'il m'étonne guère. On va poursuivre cette conversation entre nous dans quelques minutes. Auparavant, on va retrouver Marie Sorbier pour Affaire en cours.
L'affaire en cours du jour, première étape d'un tour d'horizon des fondations qui s'implique auprès des artistes. Aujourd'hui, Bruxelles. Nous sommes à la fondation Thaly. Bonjour Nathalie Guillot.
Bonjour.
Vous êtes curatrice, éditrice. Pourquoi alors avoir décidé de créer une nouvelle fondation? À quel désir ou à quel besoin répond-elle?
Alors merci de m'avoir invitée. Alors effectivement, oui, je me suis... dévouée à un projet philanthropique plutôt engagé autour de la création contemporaine, et notamment des artistes émergents. Le projet est né d'une inspiration forte de la part d'un milieu familial tourné sur la créativité, sur l'engagement aux artistes et sur la volonté de décloisonner les disciplines. Et puis, en 2008, après un parcours dans le journalisme et l'édition, en ayant été éditrice, j'ai eu envie d'écrire un petit livre qui racontait mes premières aventures dans le monde de l'art contemporain, qui pour moi était un monde complètement obscur, dont je ne connaissais rien. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce que c'est qu'acheter des artistes émergents, des artistes vivants. Et j'ai, comme ça, écrit ce petit livre qui s'appelait à l'époque « Collectionneur, les VIP de l'art contemporain ». Un peu comme une sorte de candide allant rencontrer des grands collectionneurs. À l'époque, toujours d'ailleurs, c'était Antoine de Galbert avec la Maison Rouge, mais aussi des gens qui collectionnaient l'art brut, comme Jean Châtelut. Et donc, j'ai commencé comme ça, en 2008, à construire une collection. Et au fur et à mesure de cette collection, je me suis aperçue que finalement, ce qui comptait pour moi, c'était de pouvoir écrire et produire et d'être en contact, accompagner ces artistes. Donc, j'ai commencé à faire de la curation, c'est-à-dire être commissaire, à proposer des projets à des musées, notamment en 2015, une plateforme de performance au Wills, où j'ai invité une vingtaine d'artistes autour de la question du corps social. On a fait venir Rosalie Goldberg de New York, qui nous a parlé de la performance à New York dans les années 70, avec John Cage. Et puis, bon, qu'est-ce que c'est collectionner l'art vivant, la performance, et puis tout un tas d'artistes sur ces questions. Donc l'association est devenue une fondation, donc un projet philanthropique engagé comme un fonds de dotation, on dirait en France. Et au fil de l'eau de ces projets hors les murs, donc des expositions, des plateformes de performance, une collection, en 2018, j'ai décidé que ce projet devait être rassemblé dans un lieu, donc dans une maison, qui incarne le projet de cette fondation, la Fondation Thalie.
Alors justement, dans cette maison, nous y sommes, et c'est vrai que ça ressemble vraiment à une maison quand on passe dans la rue qui vous accueille. On ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière cette porte, et puis quand on entre, c'est un lieu très chaleureux. Il y a plusieurs espaces, il y a une bibliothèque ouverte, il y a une petite terrasse, un petit jardin, un lieu d'exposition. Il y a aussi une salle dans laquelle vous accueillez des événements, et puis il y a aussi des résidences. C'est tout ça, la fondation, ça rejoint toutes ces activités-là?
Oui, alors j'ai eu un coup de cœur pour cette maison. Donc pour un petit rappel, cette maison, c'est une maison néo-moderniste, en fait construite dans les années 30 par un architecte qui s'appelle Jean Hendricks, qui était un disciple de Van de Velde, donc une figure ici iconique à Bruxelles. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant effectivement d'accueillir ce projet de fondation dans une maison, puisque je voulais laisser la place à l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que je voulais inviter à la fois des artistes mais aussi des auteurs en résidence, donc à faire un travail de découverte sur les écritures contemporaines vu mon parcours dans l'écriture, et puis un engagement aussi sur les arts visuels, un engagement sur la cuisine, puisqu'évidemment, donc c'est tous les espaces d'une maison qu'occupent ces artistes et ces auteurs. Et il faut savoir que l'originalité de cette maison, c'est que c'était occupé pendant des années par une artiste italienne qui y avait son atelier. Et donc c'est un atelier qui jouxte la maison, que j'ai entièrement rénové et qui aujourd'hui accueille effectivement 3 à 4 expositions par an, en plus de la résidence et en plus de la programmation multidisciplinaire.
Il faut dire que votre maison d'édition également vient d'exister, vient de naître. On voit les exemplaires à l'entrée que vous présentez. Ce sont des exemplaires de poésie. Mm-hmm. Et vous allez également donc éditer ces rencontres que vous faites dans la Fondation.
Alors oui, effectivement, donc à l'issue de ce confinement où on s'est tous retrouvés dans un état de sidération, j'ai eu envie de rassembler des artistes que j'aimais et créer un magazine, une revue qui s'appelle Traversée. Et donc le premier numéro de cette revue, ça rassemble toutes des femmes que j'aime, des artistes que je connais, qui sont devenues des amies pour la plupart et qui étaient un peu coincées à différents endroits du monde en panique parce qu'elles devaient rentrer. Et je leur ai demandé leur traversée à elles. Qu'est-ce que c'était être pour elles être confinées? Par définition, quand on est artiste, on est naturellement confiné puisque c'est pas dans le bruit du monde qu'on peut créer. Donc ce premier numéro, c'était un peu une sorte d'enseignement sur essayer de retrouver le silence, pour trouver une dynamique de créativité. Enfin, c'était très riche. Et donc est née cette maison d'édition qui s'appelle Ishtar. Et Ishtar, c'est une déesse mésopotamienne, la déesse de l'amour, de la guerre. Et donc on a fait une espèce de petit bois gravé pour trouver cette inspiration autour d'Ishtar. Et là, aujourd'hui, on sort le second numéro de Traversée. La thématique, c'est « Comment vivrons-nous en 2050 ?» Vaste sujet. Donc c'est une revue qui combine à la fois les sciences humaines, la poésie, bien sûr, et puis les arts visuels, enfin quelque chose d'un peu éclectique, un peu hybride, joliment mis en page, qui rejoint aussi les soirées de poésie que nous avons organisées pendant le confinement. Donc là, on ne s'attendait pas à un tel succès. On a commencé comme ça, en se disant, bon, on va faire quelque chose, c'est pas possible. On va organiser des soirées de lecture poétique. Et on a commencé, c'était en mars 2020, alors une première fois, puis une deuxième fois, une troisième fois. Puis on s'est dit, on va arrêter. Puis chaque semaine, il y avait des nouveaux lecteurs, des nouvelles lectrices qui voulaient lire, qui voulaient participer. Et donc, on a tenu comme ça pendant plusieurs semaines. Et pareil, donc j'ai voulu publier les textes des auteurs qui étaient venus lire. Donc ces textes sont rassemblés dans une revue qui s'appelle Equinox. Donc voilà, ça fait tout un ensemble de choses.
Ça fait beaucoup de choses.
Ça bouillonne.
Vous pourrez retrouver toutes les informations sur cette fondation sur le site internet de la Fondation Tali. Merci beaucoup.
Merci à vous.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Nous poursuivons cette émission en compagnie ce soir de Dominique Gonzalez-Forster et un choix musical de notre invité. Quand je dis notre invité, c'est vraiment notre invité puisqu'on va entendre un titre de son groupe, Exotourisme, qu'elle forme avec Julien Pérez. Tornado Alley.
Waouh, ça me fait de l'effet là. Merci, merci.
Non, mais c'est, merci à vous, Dominique González-Forster. Et puis, bonne nouvelle que vous m'annonciez pendant qu'on écoutait ensemble ce morceau. C'est que vous allez retrouver la scène. Bon, il faut être à Düsseldorf dans quelques temps pour vous voir sur scène.
C'est une micro-scène, mais c'est une grande joie. Donc, ce matin, on reprenait avec Pérez et j'avais la gorge qui grattait un peu. J'ai essayé de retrouver parce que il y a eu une longue interruption quoi. Et moi, comme je suis vite happée par plein de choses en fait et que j'ai pas de studio à la maison, je fais d'autres choses quoi. Hein. Donc j'oublie en fait, j'oublie que je chante, j'oublie. Heureusement, et c'était la beauté aussi des préparatifs de la soirée d'hommage à Christophe à la Philharmonie, c'était de voir répéter, d'écouter par exemple Malik Judy répéter les Paradis perdus et d'entendre sa voix d'or.
Ah, il est magnifique, Malik Judy.
Malik, vraiment, magnifique. Et même, je dirais, il fait partie, là, il m'a redonné aussi l'élan pour chanter, quoi. Et en fait, du coup, la fibre s'est remise à vibrer, quoi, et s'est repassée, là, en premier plan. Et bien, maintenant, il faut que je me... Ouais, il faut... c'est toujours pareil, hein, il faut mémoriser, j'adore chanter. Et c'est grâce à Christophe, parce qu'en fait, d'avoir pu l'écouter si souvent, en fait, puisqu'on était en résidence, en tournée, d'avoir eu le bonheur, grâce à lui, d'entrer dans son monde, dans la fabrication de son monde, et puis un jour de l'entendre me demander d'écrire un peu, j'ai essayé d'écrire quelques chansons, il les a pas utilisées, mais finalement c'est ça qui a ressurgi des années plus tard quoi.
Christophe, on entendra un tout petit peu sa voix dans un instant. On aurait pu évidemment aussi entendre Alain Bachung, évidemment.
Je dirais Christophe, Alain, et puis Daniel Darc aussi, que j'ai aussi la chance de filmer, d'écouter. Et pour moi, c'est c'est des rencontres au sommet.
Ouais, il nous manque cela, mais on a dit qu'on n'allait pas passer toute l'émission à parler seulement du passé, mais parce qu'il y a un présent, vous dites qu'il y a toujours beaucoup de choses, Dominique González-Forster, et je ne voudrais pas qu'on arrive à la fin de cette émission trop vite. Il y avait plusieurs mots à vous proposer, mais il y a un mot qui est important pour évoquer l'exposition à la Galerie Chantal Grosel, c'est le mot « chambre ».
Cette exposition, elle est particulière parce qu'en fait, elle réunit... différentes typologies presque. Donc la chambre humaine, c'est très très vite dit comment j'imagine qu'on imagine ma chambre. Donc une chambre imaginaire, mais qui est aussi une chambre, vraiment un vrai hôtel à l'amitié, parce que toutes les œuvres qui la composent sont des œuvres d'amis. Donc il y a un dessin génial de Philippe qu'il a fait, de Philippe Areno, on en parlait tout à l'heure, qu'il a essayé d'imaginer comment serait cette chambre. Donc il a fait un dessin miroir, on va dire. Il y a une poupée de Gisèle Vienne, il y a une carte de tarot, la force, dessinée par Paul B. Preciado. Il y a une photo de Giasco Bertoli, je peux pas tout détailler, il y a une chanson de Sadana Fif. C'est tout ce qui m'entoure la nuit, dans ce que j'appelle mon atelier de la nuit, quoi, dans mes heures d'insomnie. En général, entre 2h et 5h, j'ai un peu du mal à dormir. Mais c'est un temps idéal pour penser, pour imaginer. Et donc là, je suis entourée par tous ces amis. C'est vraiment un vrai... c'est très fort, en fait, pour moi. Ça m'arrive aussi au moment de m'endormir, en fait, de penser à tous mes amis dans le monde entier. Amis humains et non humains, parce que j'ai aussi des amitiés non humaines. C'est très important pour moi. Et en fait, donc il y a cette chambre.
Mais il faut quand même dire qu'elle
est...
Oui, elle est très accueillante.
Ouais.
On a envie d'y passer du temps.
Ah ben ouais, on peut y
Alors il faut le dire, allez, rentrez dans les galeries, celle de Chantal Grouzel bien sûr, mais toutes les galeries, vous pouvez rencontrer l'art directement.
Ouais,
c'est l'entrée vraiment... libre. Bah, on peut y rester, y passer du temps.
C'est l'endroit idéal, en fait, pour être très près des œuvres. Et là, je l'ai voulu vraiment... ouais, on entre, et puis on peut écouter, un vinyle de Pérez.
Ouais, il y a une platine. Hein,
voilà, on peut se mettre un peu de musique. Et donc, il y a la chambre, il y a la chambre humaine. Il y a la bibliothèque des cubes en bois, qui est quelque chose d'un peu particulier, parce que j'ai essayé, en fait, ça m'est venu une nuit, il y a quelques années, de trouver un principe pour mettre ensemble, relier des choses très différentes. Et c'est presque aussi une sorte de on va dire, je sais pas si ça lutte contre la dématérialisation, mais en tout cas, et donc dans cette bibliothèque, des cubes en bois peuvent, sous forme de cubes en bois,
vraiment,
se être à proximité, ben, une œuvre de Félix González Torres, un livre d'Elisabeth Lebovici,
un film de David Lynch.
Un film de Lynch, le Covid, Fukushima. Mm. Et en fait, c'est comme ça que j'organise mes recherches, ma pensée. Donc il y a cette bibliothèque aussi. Mm. Et puis il y a la Gorgone.
Ah, la planète close.
Voilà, et la planète close. La planète close, bon, c'est le roman impossible que j'essaye d'écrire depuis. Je pense que tant qu'il y aura des expositions, il n'y aura pas de roman. Mais bon, privez-moi d'exposition.
Bon, c'est pas de mal à veille, à mon avis, mais bon. Mais Enrique Villamatas va vous l'écrire, il le signera de votre nom.
Voilà,
ça va aller plus vite.
J'aimerais bien qu'il écrive La planète close. J'ai commencé. Donc, il y a la première phrase. Mm. Donc, la planète close, on ne sait pas trop où elle est. Mais sur cette planète, il y a des apparitions et des visions. Donc, moi, je n'écrirai pas ce qui se passe dans la planète close. Ça reste à voir.
Ah
à
oui,
sentir aussi.
Oui, oui, à sentir et à voir.
À sentir parce que j'ai...
Je ne dirai rien non plus.
Voilà.
Il y a quand même quelque chose qui sort de l'espace.
Il y a un petit...
Une entrée un peu particulière.
Voilà.
On n'en dira pas plus, on ne divulgage pas ici.
Mais non, il ne faut surtout pas parce que moi j'adore le secret. Mais c'est une... Donc il y a des choses de l'ordre de la chambre... de l'apparition avec les gorgones et de la vision. Et ça relie un peu tous ces états des œuvres en préparant déjà un petit peu le futur, quoi. En fait, ça fait au moins... Ouais, ça va faire bientôt 3 ans que je prépare quelque chose pour la Serpentine Gallery à Londres. C'est l'anti-guerre des mondes. C'est-à-dire, c'est l'idée, et si la rencontre avec les extraterrestres était plutôt quelque chose de l'ordre de l'amour, donc transformer la Serpentine en une espèce de... Ouais.
De love planet.
Ouais, planète, je ne sais pas, mais en tout cas
l'espace,
un lieu de rencontre.
Ouais.
Voilà. Donc ça c'est ce qui se prépare, la planète close, c'est ça aussi, mais c'est aussi aller dans des directions. À la galerie il y a cette odeur, donc ça c'est un peu un dialogue avec Barnabé Filion, qui est vraiment donc là, il y a un truc, il y a l'idée aussi d'aller vers quelque chose qui n'est pas que
visuel, intellectuel, mais sensoriel.
Ouais, bon, ça a toujours été,
oui,
j'ai toujours,
toujours
été,
j'ai, c'est toujours été le cas
c'est
pour
c'est toujours
vous.
Été ça entre la lumière, le son, et mais là, on va dire, il y a encore une autre dimension qui est apparue. Et mais c'est de contraster aussi en fait entre quelque chose qui est très qui est très proche, et puis quelque chose qui appartient à un autre, je sais pas, à une autre dimension, en fait. Moi, je suis hyper fascinée par toutes les œuvres, où qu'elles soient, que ce soit du texte, de la photographie, du dessin, qui ont été produits dans les séances médiumniques et tout ça. C'est vraiment quelque chose, en fait, la liberté qui a été prise grâce à ces dispositifs, c'est quelque chose qui me passionne. Et en ce moment, si j'explore un peu le mot vision, c'est pas avec un mysticisme, on va dire, un peu, qui pourrait être un peu terrifiant. C'est plutôt avec la liberté que ça peut donner, en fait, de...
D'ouvrir les portes de la perception, comme disaient les anciens.
Ouais, peut-être, en tout cas.
Quelque chose de cet
en
ordre.
En tout cas, d'avoir de développer des formes de subjectivité et de... En fait, ouais, si, d'ouvrir des possibilités, en fait. Ouais. Parce que je suis plutôt toujours un peu à penser et à... Et parfois, ouais, il faut que ça sorte.
Il faut que ça sorte. Mais alors, il y a différentes façons de faire sortir. Il y avait un autre mot que je voulais évoquer... cinéma, mais dans sa richesse, et pour introduire ce mot, je laisse les mots justement à Christophe avec cet extrait de cette soirée à l'Olympia 2002. Évidemment, on peut se procurer le DVD de ce concert dont vous aviez signé la scénographie avec Ange Leccia.
Si je devais vous raconter mon histoire, ce serait à coup de titres, de films. Alors, je vous la jouerai à bout de souffle. King Creole, Baby Doll, Christine, La Belle Américaine, Crash, 2001, L'Odyssée de l'espace, Blue Velvet, Beauté volée, Parfum de femme, Les Tricheurs, La Vérité, L'eau à la bouche. Mépris, baise-moi, les valseuses, les liaisons dangereuses, psychose. Psychose. Zéro de conduite.
Voilà, c'est Maud Christophe pour évoquer le cinéma, mais au sens, en effet, vous le disiez, Dominique Gonzalez-Forster, si Enrique Villamatas écrit le même livre depuis toujours, vous faites sans doute la même exposition, peut-être depuis 98, et cette exposition avec Philippe Parreno et Pierre Huyghe au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, où vous aviez déjoué la commande, peut-être. Enrique Villamatas, on ne sait pas s'il dit toujours la vérité, n'est-ce pas, mais il paraît que vous lui auriez dit qu'à chaque fois, que j'ai une exposition, je cherche le plan d'évasion. Il me semble que depuis au moins 98, vous ne cessez de chercher ce moyen d'évasion.
Ah ouais, je sais pas si c'est encore une fois l'influence de Duchamp, c'est-à-dire que chaque fois que quelque chose me paraît encadré et défini, en fait, j'ai envie d'autre chose. Mais c'est vrai que toujours... Alors, il y a des phases. Il y a des phases, en fait, où le médium exposition me happe de nouveau. Je vois des choses possibles. Et puis, le plus souvent, c'est quand même... Trouver la sortie. Surtout qu'en ce moment, il y a quand même... tellement de choses qui se passent aussi en dehors de l'exposition, et je dirais même en dehors du cinéma. Mmh. En fait, ça va vous paraître un peu bizarre, mais J'étais voir Dune avant-hier. Et en fait, je trouvais que c'était plus intéressant à l'extérieur que dans le cinéma. J'avais plus envie d'être dans ce qui est en train d'arriver autour de nous, même si ça pose des difficultés hallucinantes. J'avais plus envie d'être dans ce moment-là, entouré de tous ceux qui sont en train de penser des choses que d'être dans une fiction, en fait. Mmh. J'avoue qu'en ce moment, le cinéma, c'est pas mon terrain de jeu. Ou alors parce qu'il amène un nutriment, en fait, et des forces, on va dire, des images, des idées. Mais sinon, je suis plus... les moments les plus forts que j'ai vécu en 2020, c'est dans la rue, en fait. C'est vraiment entouré dans les grandes manifs. Les moments, pour moi, de... Enfin, l'espace, le rassemblement des corps, mais aussi j'y vais aussi avec ma fille, je vois les adolescents, je vois les adultes, je vois toute cette adolescence non binaire qui est en train de transformer son rapport au monde, à la sexualité, au futur. Je suis beaucoup plus prise en ce moment par le réel que par la fiction.
On va se retrouver dans quelques minutes, Dominique Gonzalez-Foster, pour conclure cette émission ensemble. Pour l'instant, affaire à suivre.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Comme chaque lundi soir, on va partir à l'étranger. Et la rentrée littéraire nous amène ce soir en Autriche, où nous retrouvons à Vienne Isor Ias. Bonsoir Isor.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous.
Alors vous allez nous parler de l'écrivain autrichien Wolfgang Herrmann, dont le récit Monsieur Faustini part en voyage, traduit par Olivier Lelay, est paru aux éditions Verdier le 26 août dernier.
Monsieur Faustini est un retraité sans âge, un célibataire endurci vivant seul avec son chat dans un village du Vorarlberg, non loin du lac de Constance. Sa vie bien réglée pourrait sembler ennuyeuse tant elle est banale, mais il n'en est rien, car cet anti-héros a un don, celui de vivre chaque petite aventure du quotidien intensément. Il s'émerveille du sourire de sa banquière, trouve l'apaisement dans les trajets en autocar, fantasme sur les mains ensorceleuses de sa coiffeuse. Son innocence enchante le monde, un regard dont l'auteur Wolfgang Herrmann avait besoin.
J'ai été en crise pendant de nombreuses années après la mort de mon fils. Je ne savais pas si je pouvais encore écrire. Puis je me suis rendu compte que je ne pouvais survivre que si j'essayais de voir le monde différemment. C'est alors que M. Faustini m'est apparu. Avec cette innocence, on peut transformer le monde, changer de regard, voir la beauté de la vie après la catastrophe.
La naïveté de Faustini nous touche grâce à la tendre ironie de l'auteur. Elle nous fait également rire, franchement rire même, lorsque par exemple il appelle Madame Robbatcher pour connaître les horaires de train, choisit le trajet le plus long et le plus compliqué, surprenant ainsi son interlocutrice dont il veut absolument connaître la vie, ce qui donne lieu à un échange hilarant.
Oui, parce que Monsieur Faustini veut partir en voyage.
Oui, ce qui l'angoisse d'abord, car il navigue d'ordinaire dans un périmètre très restreint. C'est un voyageur à l'échelle du minuscule, comme l'écrit joliment l'auteur. Et pourtant, il va devoir quitter son pays pour se rendre en Suisse, où sa sœur l'attend afin de célébrer son anniversaire. Là, il renouera avec la vie, se posera alors cette difficile question. Comment avait-il pu vivre jusqu'à ce jour, comme si rien ni personne n'existait au monde, hormis lui-même? Le voyage permet cette prise de conscience, selon Wolfgang Herrmann.
Nous sommes tous enfermés en nous-mêmes, souvent bloqués avec des pensées répétitives. Le voyage, c'est une libération de soi-même. On se délivre de ses petites peurs en regardant ce qu'il y a ailleurs, en constatant à quel point nous sommes petits et le monde riche. Faustini cherche cette délivrance car sa vie est très réduite. C'est un conte sur la libération de soi-même.
C'est un märchen von einer Selbstbefreiung eigentlich.
Wolfgang Herrmann a lui-même beaucoup voyagé, vécu en Allemagne, en France, au Japon. Mais son tout premier voyage fut la littérature, qu'il découvrit à l'âge de 11 ans. Alors à l'hôpital, son oncle lui apporte de nombreux livres, une libération qui le conduira à l'écriture.
Et justement, Isor, ce qui rend ce récit pour vous si beau, c'est son écriture poétique de Wolfgang Herrmann.
Oui, une poésie de l'image qui nous émerveille au fil des pages, qu'il s'agisse de l'atroce petit bloc d'ennui qui repose invisible au pied du lit de Faustini, de sa détestation du dimanche, cette masse épaisse et poisseuse où se fige le mouvement même de la vie, ou encore de sa surprise de ne pas entendre un froissement de feuilles chiffonnées lorsqu'il serre la main de Monsieur Ospelt, banquier à l'odeur de papier. La traduction d'Olivier Lelay est remarquable, parvenant à rendre ce souffle si particulier, notamment à la fin du récit, lorsque l'onirisme se mêle à la poésie. Depuis les années 80, Wolfgang Herrmann a écrit une trentaine d'ouvrages aux genres variés, mais on retrouve toujours la force de l'image poétique.
Je ne suis pas un romancier de l'épique, plutôt quelqu'un qui condense, qui dessine les personnages avec peu de traits. Je ne fais pas toujours la même chose, je change parfois de ton, mais il en va toujours de l'image poétique. Pour moi, car quand je lis un livre et que je ne vois pas d'image mais n'entends que des mots, je ne peux pas m'y plonger et je le laisse de côté.
L'écriture chez Wolfgang Herrmann, c'est un processus fragile, dit-il.
Oui, il écrit sans plan, parfois plusieurs ouvrages à la fois, en termine certains des années après les avoir commencés. C'est le cas pour le bouleversant Adieu sans fin, également traduit par Olivier Lelay et paru aux éditions Verdier en 2017, dans lequel un père affronte la mort soudaine de son fils adolescent.
Ich habe das Buch angefangen, ein paar Monate nach dem Tod.
J'ai commencé à écrire Adieu sans fin quelques mois après la mort de mon fils, mais je l'ai terminé 12 ans plus tard. Une fois fini, j'ai eu le sentiment que c'était le travail le plus important de ma vie. J'ai dû attendre ces 12 années car je ne voulais pas écrire un livre de lamentation, mais un livre sur l'amour. Mon unique motivation était de trouver une langue pour cela et d'apporter de la lumière.
S'il écrit d'autres ouvrages entre-temps, Monsieur Faustini continue d'accompagner Wolfgang Herrmann, qui a publié en février dernier en Autriche le 5e volet de ses aventures. Il présentera cette semaine Monsieur Faustini part en voyage dans plusieurs villes de France, une tournée de lecture qu'il effectue aux côtés de Reinhard Kaiser-Müllecker, autre écrivain autrichien dont nous avons parlé sur cette antenne pour son grand roman Lila Rouge. Ils seront tous deux accompagnés de leur traducteur, Olivier Lelay. Si vous souhaitez aller à leur rencontre, toutes les informations sont sur le site des éditions Verdier.
Ben merci beaucoup Isorias, vous vous donnez beaucoup envie de lire Wolfgang Herrmann. Alors deux petites minutes, beaucoup trop courtes, avec vous encore Dominique Gondaré-Forster, mais il y a un mot évidemment que j'aurais pu prononcer, qu'on a entendu ici avec Wolfgang Herrmann, c'est le mot de voyage, et puis on aurait pu parler de Vienne, par exemple. Les voyages, c'est quelque chose qui vous nourrit absolument.
Ah ouais, j'ai été une voyageuse. Maintenant, je voyage, on va dire, comme dirait Enrique, plus verticalement dans le temps. Je voyage beaucoup dans le temps. Je voyage, très différemment en fait. J'ai été, on va dire, une voyageuse géographique et je suis devenue une voyageuse temporelle. Mais je me déplace toujours pas mal. Où? Parfois, le titre justement à Vienne de l'exposition, c'est l'excursion volcanique. Donc, la notion d'excursion aussi, c'est pas, il y a quelque chose, c'est peut-être moins lointain. Mais bon, en même temps, je dis ça et je parlais des, je suis sur des, on va dire des déplacements dans le temps, des micro déplacements, mais aussi évidemment le voyage. Interplanétaire.
L'exotourisme.
L'exotourisme, exactement.
Ça continue, le site, il est toujours actif, l'exotourisme.
C'est notre projet musical. Ouais. Et puis, c'est aussi tout un ensemble de pensées sur les autres mondes, quoi. Ouais. Sur tout ce qui est non humain. Enfin, je pense qu'en ce moment aussi, dans notre changement de rapport au vivant et à toutes les formes de vivant, la question du non humain prend une place très importante.
Bon, ben on va continuer à voyager avec vous, je n'en doute pas. Merci Dominique Gonzalez-Forster d'avoir fait ce petit voyage avec vous.
Merci, c'était extra.
Je rappelle qu'on peut voir en ce moment votre exposition La Chambre humaine et la planète close. C'est jusqu'au 9 octobre à la Galerie Chantal Grousel à Paris. Vraiment, allez-y, prenez votre temps, vous serez bien reçus. Puis bientôt, ce spectacle de Jean-Claude Galotard, j'en parlerai peut-être avec lui ou avec Rodolphe Burger qui collabore également. Le jour se rêve, la première, ce sera à Dieppe, la scène nationale, le 9 novembre. Ensuite, on ira, ce spectacle ira à Val-de-Reuil, à Avignon, à Tonneau-les-Bains, à Épinal, à Esch-sur-Alzette, à Grenoble, à la MC2, dont on parlait tout à l'heure, à Paris, au Théâtre du Rond-Point et à Chambéry, non loin de Grenoble. Autre scène nationale importante. Cette émission, comme tout à l'heure de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site franceculture.fr ou l'application Radio France. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Boris Pinault, Anouk Minaudier, Dina Pédaros et Lucille Gomeau.
France Culture. L'esprit d'ouverture.